Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct sur RMC jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Et bonjour Louis Amar.
En direct du circuit du Castellet, Jean-Luc, sur le circuit Paul Ricard, édition spéciale Grand Prix de France. Ce dimanche, Lewis Hamilton en pole position, Charles Leclerc 3e. On en parle avec la Dream Team et nos invités, Stéphane Clerc, directeur du circuit, et l'ancien pilote Yannick Dalmas. Vous entendrez également toutes les réactions après les qualifs d'hier. Et puis à 13h45, Radio Paddock, c'est parti pour Motors, bienvenue.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Adrien Tambay est là, évidemment. Salut Adrien.
J'ai cru que tu m'avais oublié. Salut.
Mais
Louis.
Jamais de la vie, jamais de la vie. Comment oserais-je ? Messieurs, déjà un premier invité avec vous sur le circuit du Castellet.
Absolument, Louis, un premier invité qui est Stéphane Clerc, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir, le directeur du circuit Paul Ricard, parce que Stéphane, le temps est, on continue à se tutoyer, le temps est extrêmement serré puisqu'on est avant le Grand Prix, même si le travail, tu nous l'as dit au micro d'RMC, déjà il se fait bien en amont.
Oui, heureusement, on travaille un peu toute l'année, allez, on va dire, depuis le dernier Grand Prix, on s'est mis au boulot et la semaine du Grand Prix, on est là pour gérer les urgences, c'est ça. Mais là, la pression monte, on est un peu, je pense, comme les pilotes, c'est-à-dire que on regarde les minutes qui défilent et on essaye de régler que tout soit prêt pour le départ, évidemment.
Il n'y a pas eu de problème de dernière minute, là, tout va bien.
Non, ce matin, plutôt des belles courses en plus, on est ravis quand
avec
ça se passe comme ça.
On peut le dire.
Et oui, elle a déjà raisonné.
Et voilà. Celle d'Antoine Hubert, hein, on l'a vécu ensemble tout à l'heure dans la course de Formule 2. Alors Stéphane, justement, pour l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1, on le sait, il y a des contraintes très particulières de la part de la FOM. En termes d'accès, déjà, on peut dire que le pari est réussi. On va finir d'en parler parce que tout s'est très bien passé, je crois, même aujourd'hui.
Hein. Oui, à l'heure qu'il est, en tout cas, personne ne pourra nous dire qu'il a eu des difficultés pour accéder ou pour repartir du circuit. C'est donc que les travaux menés depuis l'année dernière ont porté leurs fruits et que les études qu'on a fait à partir des données, c'est ce qui nous manquait la première année sans doute pour comprendre comment fonctionnait le trafic autour du circuit, ça a fonctionné et ça c'est un gage de succès pour l'avenir parce que ça veut dire qu'on est donc capable d'accueillir un public important dans des conditions qui sont sans doute meilleures même que la plupart des autres Grands Prix maintenant. En tout cas cette année on peut dire que on nous attendait au tournant et
le virage a été bien négocié. À ce propos d'ailleurs, les modifs, on l'a évoqué également hier puisque tu nous as rendu visite dans le studio RMC, mais on va y revenir plus précisément dans Motors. Deux modifications importantes concernant l'accès au stand et la sortie.
Oui, l'idée c'était dans un premier temps de parler sécurité. On avait une entrée des stands qui était assez particulière puisqu'elle était au début d'une ligne droite importante et donc les voitures prennent de la vitesse et quand on est sur la trajectoire, évidemment, c'était difficile de rentrer sans mettre en danger les autres. Donc, l'idée, ça a été de faire sortir les voitures avant. Donc, un virage avant. Gros travaux parce qu'il faut créer des ponts.
Dans le virage de la tour,
absolument.
Ouais, effectivement, à l'entrée des stands, elle était un endroit où il pouvait y avoir des manœuvres de dépassement et de décroisement après le dernier virage. Et donc, parfois, ça laisse présager de belles frayeurs, en fait. Des incompréhensions. Et maintenant, avec la nouvelle entrée des stands, c'est beaucoup mieux. Et même la sortie, je pense, le fait de laisser les pilotes sur la droite plus longtemps, on est plus à vue quand on est sur le circuit dans un tour rapide et on sait ce qui se passe.
Alors, voilà. On rappelle que ce circuit a été inauguré en 1970, construit par Paul Ricard, avec ses fonds particuliers, c'est très important, qui était à l'époque le circuit de référence en termes de sécurité et de tracé. Tu te positionnerais également comme cela aujourd'hui. On sait qu'il y a des dégagements très très vastes.
Hein. Oui, aujourd'hui on est sur une base qui est une base d'un circuit d'essai, d'essai à très haute vitesse et avec des véhicules modernes, on va dire. Hein. C'est-à-dire, c'est un circuit qui s'est adapté à l'évolution des véhicules. Et notre travail, c'est de venir de ce monde de l'essai au monde de la compétition pour être à la fois sécurisant mais également spectaculaire. On a de la chance, c'est un circuit sur lequel il y a des dépassements, il y a des grandes vitesses, il y a des virages mythiques particuliers. J'ai entendu certains pilotes, dont Lewis Hamilton, qui disaient finalement ce tracé est difficile. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on est plat que les choses sont simples. Et la ligne droite du Mistral, avec une chicane, quand on arrive dans la courbe de Cygne, je peux vous dire que voilà, ça reste spectaculaire.
Ouais, c'est très compliqué, tout simplement. On pourrait penser avec tous ces dégagements que c'est plus simple pour un pilote, mais au final d'aller faire le meilleur tour en qualification, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on est tous encore plus à la limite quelque part. On prend tous les risques et sur un circuit qui est très complet avec aussi ici pas mal de vent sur ce plateau et avec un vent changeant parfois. On a vu hier en qualification les pilotes gagner quasiment 2 secondes entre la Q1 et la Q3, donc un grip qui ne cessait de s'améliorer et c'est un challenge à la fois sportif pour les pilotes et technique pour les écuries, l'utilisation des pneus Pirelli qui est très compliqué.
Stéphane, on peut rappeler également que bien sûr le tracé est utilisé toute l'année dans des compétitions, pour des compétitions extrêmement diverses. Combien de jours au total et combien de compétitions?
On a 300 jours d'activité ici sur la piste principale du circuit et on reçoit 23 compétitions de nature tout à fait diverse. On a de la Formule 1, on a de la moto également hein, puisqu'on a deux épreuves, une épreuve d'endurance historique et un championnat du monde d'endurance, c'est le Bol d'Or, et on reçoit un Grand Prix camion, de la GT internationale. Donc tout le monde aime ce circuit parce que on y trouve un peu de tout. C'est du sinueux, du rapide et des conditions d'accueil qui sont quand même exceptionnelles parce que on est au bord de la mer, dans la nature, en Provence, avec des conditions d'accueil, des installations de qualité.
Bien sûr. On va dire qu'on est resté dans la lignée de l'impulsion initiale de Paul Ricard. Alors, est-ce que ça se gère, un circuit, en l'occurrence de Formule 1, comme une autre grande entreprise ou pas? Combien de salariés et qu'est-ce que ça pose comme problème particulier au-delà de la passion qui t'anime? On le sait puisque tu étais pilote aussi ce week-end, on peut l'évoquer.
Modestement, oui, j'ai un petit peu roulé. Le rôle d'un, c'est une véritable entreprise, donc le rôle d'un patron, c'est d'encadrer. Ici, c'est une centaine de salariés permanents sur le circuit. On a également un aéroport avec 20 salariés. Il y a des hôtels. Donc, c'est une petite ville qu'on gère. Parfois, j'ai l'impression d'être le maire puisqu'on fait ici tout. C'est une structure complètement privée. Et voilà, il faut traiter ce que les élus font dans vos communes respectives. Donc, c'est la même chose sur un circuit. Et c'est une vraie belle petite entreprise.
Dernier point peut-être, parce qu'il va falloir te lâcher, parce que là, effectivement, le décompte est amorcé. On sait que le contrat est signé, je crois, jusqu'en 2022 avec l'organisation. Christian Estrosi nous l'a confirmé hier. Donc, il y aura encore quelques évolutions en vue pour l'édition prochaine et les suivantes.
Oui, on ne s'arrête jamais d'évoluer puisqu'on est à l'écoute. On parlait de l'entrée, la sortie des stands. Je crois que l'entrée n'appelle pas beaucoup de commentaires. La sortie semble en appeler avec peut-être une entrée différente, un retour sur piste un peu différent.
On n'est jamais content, les pilotes. Hein.
C'est des casse-pieds.
Mais comme vous nous faites un spectacle magnifique, on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de répondre favorablement à vos demandes si on sait que ça va servir le spectacle. Et c'est ça maintenant qui nous importe. Et l'entrée dans les stands, on espérait qu'elle permette de faire 2 arrêts au stand. Il semblerait qu'avec les pneumatiques, ce soit compliqué. Je sais pas ce que vous
en pensez. La bonne stratégie semblerait être celle de l'arrêt unique. Ouais. On verra. Les températures sont très élevées. On sait que la théorie, c'est une chose. La simulation, c'est une chose. Mais après, ce qui se passe en piste, on sait jamais. Il y aura peut-être quelques pilotes qui seront sur 2 arrêts. Mais apparemment, on perd 23 secondes avec la nouvelle ligne des stands.
Voilà, j'ai promis de lâcher Stéphane Clair. On va le faire maintenant. Donc, Louis, on va pouvoir entrer dans le reste et commenter. Et la grille, merci infiniment Stéphane Terre d'être venu nous rendre visite et bon Grand Prix également. Merci beaucoup.
Alors messieurs, dans quelques instants évidemment on va revenir sur les qualifs d'hier, on va écouter tous les pilotes, on va accueillir Lucas Vinois qui va nous rejoindre dans quelques instants. Un mot d'abord de la canicule, parce que est-ce qu'il fait vraiment très très chaud sur le circuit Paul Ricard à 2h de la course? Et puis quelle est l'ambiance, Jean-Luc, Adrien, est-ce qu'il y a déjà du monde?
Alors oui, il y a déjà du monde. Ça aussi, c'est un sujet qu'effectivement, on n'a pas eu jusque-là l'opportunité d'aborder dans le détail. On va pas le cacher, hein, on n'a pas la langue de bois. Il y a moins de monde que l'an dernier. Là, tu vois, la température de l'air est de 25 degrés exactement. Celle de la piste est pour le moment de 52 degrés. On a vu hier, pendant les qualifs, qui se situent exactement au même moment, c'est-à-dire 15h, hein, 15h10 pour être précis, on était monté à 56 degrés sur la piste. Et tu le sais bien, ça a une influence naturellement sur l'utilisation des pneumatiques et éventuellement les pressions que les équipes vont devoir adopter.
Et pas de bouleversement météo à attendre, messieurs.
Non,
on est déjà à 52 de température de piste.
Ouais. Voilà. Non, il n'y a pas de bouleversement météo à attendre. Tempête de ciel bleu, si ça te va comme
ça
formulation.
Me va très bien. 1:28.319. Voilà le temps qu'il a fallu à Lewis Hamilton hier pour signer la 86e pole position de sa carrière. C'est lui qui s'élancera donc en tête dans un petit peu moins de 2 heures. Tu disais tout à l'heure, Adrien, qu'il n'y avait pas de pilote heureux. Eh bien, en fait, si. Lewis Hamilton, hier, un bref instant, l'a été. Écoutez-le, il est au micro de Lucas Vinois.
Valtteri a été plus rapide en Q1 et Q2. Les choses devenaient difficiles et je me suis dit que ce ne serait peut-être pas mon week-end en termes de performance. Mais je savais qu'il y avait la possibilité de faire un bon tour ici et j'ai réussi à sortir quelque chose de fou en Q3. La Q3, c'est vraiment génial. C'est la meilleure partie du week-end, la plus difficile aussi, mais c'est toujours l'occasion de faire quelque chose de spécial.
Lewis Hamilton au micro de Sarah Griffon. Lucas Vinoy, ça y est, nous a rejoint. Salut Lucas.
Salut Louis, bonjour à tous.
Eh oui, il manquait un pied, un troisième pied à cette Dream Team. Adrien, pole position de Lewis Hamilton hier. On le disait dès après la qualif, dans le débrief. En fait, les mots commencent à manquer, les superlatifs aussi, puisque dans toutes les conditions que ce soit, face à quelque adversité que ce soit, l'issue semble devoir toujours être la même.
Je crois qu'il fait un boulot extraordinaire, Lewis Hamilton. Effectivement, on a du mal à trouver les mots course après course, surtout que c'est un week-end où Valtteri Bottas semblait revigoré après sa petite contre-performance à Montréal, la première de l'année, en tout cas en termes de performance par rapport à son coéquipier. Mais pour l'instant, en tout cas, enfin, sur le week-end, il était devant Lewis Hamilton jusqu'au moment où ça compte. Comme à chaque fois, presque, Lewis Hamilton arrive à nous sortir un tour magique en Q3, quasiment deux secondes plus vite que les tours faits en Q1, avec une adhérence de piste qui ne cessait de s'améliorer pendant cette qualification. Et on l'a vu hein, en caméra embarquée, avoir un tour quasi parfait, alors avec une légère glisse dans l'avant-dernier virage, une rafale de vent qui lui a fait perdre heureusement oui. Pas mal de temps. Il a eu en fait qu'un seul moment de doute dans ce virage là et tout le reste du tour était juste parfait. Il a réussi à trouver un équilibre presque magique sur sa Mercedes.
Alors Lucas, voilà. Adrien l'a dit, Valtteri Bottas était devant Lewis Hamilton jusqu'au moment où ça compte, pour reprendre ton mot Adrien. Est-ce que quand tu as vu Lucas, Valtteri Bottas arriver devant toi à l'issue de la séance de qualif, tu sentais que lui aussi avait pris un petit coup sur la tête.
Ouais, et puis ça fait plusieurs grands prix hein, qu'il prend quelques coups sur la tête, Valtteri Bottas. Il a bien débuté la saison, mais peut-être que Lewis Hamilton n'était tout simplement pas à 100% ou à 110%, et on a l'impression que Bottas lui est déjà à fond, et donc à la régulière, quand Lewis Hamilton met tout ensemble, il a du mal à lui résister. En tout cas, c'est l'impression que ça laissait hier. Alors après, une deuxième place, attention, hein, c'est pas catastrophique. On sait que Valtteri Bottas est capable de prendre de très bons départs. Il l'a fait notamment depuis la deuxième place sur la grille depuis le début de saison, donc rien n'est fait, mais c'est vrai qu'en performance pure et en vitesse pure sur un tour, Lewis Hamilton n'a pas d'égal en Formule 1.
Et plus globalement, Jean-Luc, les Mercedes n'ont pas d'égal en Formule 1.
Ben oui, il faut bien le reconnaître, effectivement, elles avaient dominé les séances d'essais libres d'une manière outrageante, pour les Ferrari en tout cas. On a compté aux alentours de 3-4 dixièmes et même un peu plus parfois. Pardon. Et là, effectivement, les Mercedes paraissent très très bien armées pour triompher aujourd'hui, il faut le dire.
Les Mercedes devant, donc Lewis Hamilton juste en tête, Valtteri Bottas en deuxième position, et sur la deuxième ligne, la première des Ferrari, celle de Charles Leclerc qu'on écoute.
Content d'un côté parce que du point de vue personnel je suis satisfait. C'est vrai qu'au Canada et même dans les courses d'avant j'étais pas content. La balance de la voiture en Q3, j'anticipais jamais l'évolution de la piste et aujourd'hui je pense c'est ce que j'ai fait. Après voilà, après c'est sûr que c'est un peu difficile de sourire quand on voit l'écart avec Mercedes. Mais bon, on doit être aussi content d'avoir maximisé le potentiel de la voiture. Demain ça va être une journée compliquée mais on essaiera de faire le max.
Lucas, c'est le premier Grand Prix de France de Charles Leclerc dans la peau d'un pilote Ferrari. Est-ce que la popularité que tu as pu constater s'en ressent ? Est-ce qu'il est clairement le plus attendu de tous ?
Bien sûr, mais c'est un enfant du Sud, Charles Leclerc. Même s'il est monégasque, c'est un enfant du Sud. Il a commencé où ? Le karting à Brignoles, pas très très loin d'ici, il faut le dire. Donc forcément, il est attendu, Charles Leclerc. Et il l'a dit lui-même, s'il devait décrocher sa première victoire en Formule 1, il aimerait bien que ce soit à Monaco. Mais en deuxième position, il cite tout de suite le circuit Paul Ricard.
Ah, il nous met devant l'Italie quand même. Attaches.
Mais bien sûr qu'il voilà. Nous met devant l'Italie.
Ça va mieux.
Il nous l'a dit jeudi pendant la journée des médias. Donc bien sûr qu'il a beaucoup de supporters. De toute façon, il y a toujours beaucoup de supporters de la Scuderia Ferrari partout dans le monde. Hein, ça a toujours été comme ça. Mais oui, Charles Leclerc jouit d'une petite popularité ici quand même. Oui.
Adrien, est-ce qu'il peut le faire ?
Ah, est-ce qu'il peut le faire ? Oui, lui, il peut le faire. Est-ce que la Ferrari peut le faire ? C'est une autre question, c'est une autre paire de manches. Mais oui, lui, il a totalement le potentiel pour le faire. Il nous l'a prouvé déjà à Bahreïn. Il devait la gagner cette course assez tôt dans la saison. D'ailleurs, il devance son coéquipier depuis le début du week-end. même de beaucoup en Q3, même si ouais. Vettel a fait quelques erreurs, mais il peut le faire et faut espérer que la Ferrari soit dans le match. Ça sera un peu compliqué ici. On espérait avec les températures que cette Ferrari arrive à mieux utiliser les pneumatiques que la Mercedes. On verra en course, mais pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas vraiment.
Ou un accrochage devant, évidemment au départ, Jean-Luc. Si jamais Bottas et Hamilton venaient à se chicaner, il y aurait une ouverture.
Ah, écoute, on l'a vu l'an dernier, hein, au départ, dans les S de la Verri, qui sont très délicats à négocier. Bien sûr, on a malgré tout pas tout à fait les pneumatiques ni les freins en température, même si on s'élançant depuis la grille, on est à fond. On a vu effectivement quelques frictions. Il peut y en avoir à la chicane, effectivement, se dérouler dans ce premier tour ou même dans le deuxième. Donc c'est vrai que Charles est dans une position d'attente idéale. Il partira du bon côté de la piste, il faut le rappeler, grâce à son troisième temps. C'est toujours le côté impair, hein, Hamilton, Leclerc, Norris, on va en parler, Vettel, etc., Gasly, qui sont du bon côté. Donc oui, il y a une belle carte à jouer, c'est clair, pour Charles Leclerc, et probablement dès le départ d'ailleurs.
Il faut qu'on parle de l'équipier de Charles Leclerc, il faut qu'on ouvre le dossier Sébastien Vettel. Il est septième sur la grille de départ, 1,29,799, c'est à peu près 8 dixièmes moins bien que son équipier Charles Leclerc en Q3. On va écouter Sébastien Vettel et ensuite on en parle. Peut-être a-t-il été perturbé parce qu'il lui est arrivé il y a 15 jours lors du Grand Prix du Canada. Peut-être est-il arrivé en France en y pensant. J'ai envie de vous entendre là-dessus, mais d'abord la réaction de Sébastien Vettel après la qualif.
Je ne sais pas pourquoi j'ai raté mon passage de rapport. J'ai perdu beaucoup de vitesse, donc ça ne servait plus à rien de continuer. Je suis rentré au stand et lors du dernier tour, je n'ai pas ressenti la voiture comme d'habitude. Je ne suis pas satisfait, je n'ai pas tiré le plein potentiel de la voiture aujourd'hui. C'est pour cela qu'on ne s'est pas qualifié à la place où on aurait dû être. Mais attendons de voir ce qu'il va se passer. La course est très longue. Ce ne sera pas facile de doubler les McLaren, mais nous sommes plus rapides, donc ça devrait aller.
I think we are faster, so. C'est pas un lapsus, hein. Il y a des McLaren devant lui, il parle pas des Mercedes, hein, Sébastien Vettel. C'est pas un retour vers le futur. Ouais. Adrien, est-ce que c'est un truc de journaliste de dire que Sébastien Vettel est arrivé à ce Grand Prix en ayant le dernier dans la tête et que peut-être il faut voir là la source de son erreur d'hier?
C'est dur parce que j'ai un immense respect pour ce quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. C'est un grand champion mais la question est totalement juste, celle que tu me poses. Pour moi, il y a une fébrilité chez Sébastien Vettel depuis un certain temps, même l'année dernière. Ouais. Et là, il se voyait peut-être sorti de cette spirale négative à Montréal avec une victoire qu'on lui enlève, à tort ou à raison. Mais c'est la décision de l'arbitre et il faut la respecter. À un moment donné, faut même plus en parler. Il faut bouger sur le prochain Grand Prix, en tout cas mentalement. De là à dire que c'est à cause de ça qu'il fait une contre-performance en qualification, peut-être pas, mais en tout cas c'est sûr que hier on l'a vu surconduire, on le voit encore parler d'un problème de rapport de boîte, mais ce qu'il dit pas c'est que nous on l'a vu, l'erreur dans le premier virage et la sortie large dans le cinquième virage. Pour moi, le tour aurait été annulé puisqu'il est sorti les quatre roues derrière la ligne de course. Donc l'upshift, le changement de rapport n'est même pas la raison de cette contre-performance. Est-ce que c'est un manque de recul? Est-ce qu'il se cache derrière quelques excuses qui font que il trouve pas, du coup, il est pas concentré sur les vrais problèmes et arriver à faire justement s'améliorer cette Ferrari. En tout cas, c'est difficile, hein, cette période pour Sébastien Vettel. En plus de ça, il a un coéquipier en la personne de Charles Leclerc qui lui met quand même la pression, même si il y a 6-2 en qualification pour Vettel. En termes de performance pure, Leclerc est quand même pour moi un peu devant. Voilà, c'est pas facile. Espérons que le mental de champion reprenne le dessus.
Ça sera en tout cas un des grands enjeux de cette course, de voir comment Sébastien Vettel va réagir à cette situation délicate. Mais il l'a dit, Sébastien Vettel, il va falloir doubler des McLaren, parce que c'est vrai, on trouve Charles Leclerc en troisième position sur sa Ferrari, Max Verstappen, nous n'avons pas encore eu le temps de le dire, mais est quatrième avec la première des Red Bull, et au cinquième et sixième place, les deux McLaren, dont celle de la surprise, Lando Norris, qui se classe cinquième et qui réussit décidément un très très beau début de saison. On va l'écouter, on en parle juste derrière. Lando Norris. Norris.
Ça a été difficile parce que la piste était éprouvante pour tout le monde. Quand tu penses que tu as fait un bon tour parce que tu as une demi-seconde de marge, au final, les autres font le même temps. Donc ça a été compliqué, mais les gars ont fait du bon boulot et ils le font depuis 2 semaines. Le travail paye, tout le monde est content. On espère que ça se verra aujourd'hui et sur les prochaines courses.
Jean-Luc, Lando Norris, magnifique surprise quand même depuis le début de saison parce qu'il est très fiable, très, très solide. Et puis McLaren qui revient à un niveau presque inespéré.
Écoute, il est remarquable, ce jeune pilote. Effectivement, il figure au 12e rang pour le moment au classement général provisoire du championnat avec 12 points, soit à égalité avec Nico Hülkenberg. Et juste derrière Kimi Raikkonen et Sergio Perez, et tu le disais, pour qu'il puisse s'exprimer, naturellement, il lui faut une monoplace à sa mesure. Alors, on a évoqué le moteur Renault qui trouve bien sa place dans ce châssis McLaren. McLaren est en progrès, c'est incontestable et on en est ravis, évidemment. C'est une très grande équipe avec un palmarès prestigieux. Ça nous faisait mal au cœur de les voir aussi loin. Et puis il y a aussi effectivement, Adrien l'évoquait très clairement hier, et je crois que je souscris à ce qu'il dit, le départ finalement de Fernando Alonso a libéré un petit peu tout le monde avec Carlos Sainz, il faut le dire, à ses côtés, qui est un jeune pilote espagnol, encore jeune pilote espagnol, qui était un petit peu, je ne vais pas dire méprisé, mais pas situé à son niveau. Et bien là, on a l'impression que c'est deux très jeunes pilotes, hein, puisque Lando Norris n'a même pas 20 ans, et bien s'exprime comme il faut dans cette équipe McLaren revigorée. Et ma foi, ben oui, il va peut-être falloir s'habituer à les voir régulièrement dans le top 10.
Dans cette équipe McLaren-Renault, Lucas, ce qui démontre quand même que le groupe propulseur de la marque française fonctionne, que le problème n'est pas à chercher là quand on parle des contre-performances de l'écurie aux losanges.
Non, bien sûr, le moteur fonctionne beaucoup mieux cette année que les années passées. Il est plus fiable, il est plus puissant. On s'est rapproché du moteur Mercedes et du moteur Ferrari, même si c'est vrai qu'il manque encore quelques chevaux. Du côté de chez Renault, c'est peut-être le châssis qui a été un petit peu moins bien conçu. Ce qui a été plutôt bien réussi, en tout cas du côté de chez McLaren. Donc c'est la raison pour laquelle Lando Norris a été capable de réaliser la meilleure qualification de sa carrière à ce jour en Formule 1, et c'est une performance globale puisqu'on retrouve Carlos Sainz juste derrière. Donc, c'est-à-dire que la monoplace fonctionne bien. Après, moi, ce que je voudrais pointer du doigt, c'est que Lando Norris en F2 était un très bon pilote en course, mais souvent en difficulté en qualification. Les progrès qu'il a pu faire dès sa première saison en F1 sont franchement impressionnants. On rappelle qu'il est champion du monde de karting, hein, Lando Norris, ce n'est pas le premier venu, mais il a beaucoup, beaucoup progressé, et ce, très, très vite. Il s'est très vite acclimaté à ce grand cirque qu'est la Formule 1.
Et il faut le souligner, hein, aussi, on en parlait avec Alain Prost juste avant à l'antenne. Il faut souligner vraiment les progrès qui ont été faits par Renault et par Viry Châtillon sur le moteur. Les simulations et les chiffres disent que le moteur serait tout simplement le deuxième meilleur moteur du plateau. Et maintenant que la fiabilité, espérons qu'elle reste comme ça, parce qu'il y a eu pas mal de soucis, notamment avec les bielles.
Ils l'ont reconnu.
Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de fait. Et comme le disait Lucas juste avant, la preuve en est, hein, Lando Norris, cinquième avec une McLaren, avec un moteur Renault. Ouais. C'est preuve de la bonne performance du bloc français. Voilà. Pour en revenir à Lando Norris, moi je suis impressionné par sa décontraction et son attitude. On le voit, peut-être contrairement à certains, avoir beaucoup de recul sur les situations depuis le début de l'année, sur des moments où il s'est fait sortir, où il a eu un accident. On le voit plaisanter ensuite sur Twitter, sur les médias. Il prend les choses vraiment avec un détachement un peu à l'anglaise, avec un flegme britannique. Et il est vraiment intéressant, Lando Norris. Et pour revenir à la Formule 2, on sait quand même que c'est un championnat très compliqué où les réglages des monoplaces, c'est une formule monotype. Et il a peut-être eu une voiture qui lui permettait d'être rapide en course et un peu moins en qualif, mais en tout cas c'est du très très haut niveau.
Lando Norris qui s'élancera donc en 5e position à 15h10 tout à l'heure pour le départ de ce Grand Prix de France. 13h27 sur RMC, dans un instant dans Motors, avec vous messieurs, Yannick Dalmas, l'ancien pilote, sera votre invité depuis le Castellet. On évoque la 8e position de Daniel Ricciardo sur sa Renault, la 9e de Pierre Gasly et la 16e de Romain Grosjean dans le Frenchies Corner. A tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bientôt 13h30 sur RMC, Motors, en direct avec Jean-Luc Roy et Adrien Tambay, en direct du circuit Paul Ricard au Castellet, où se déroulera tout à l'heure à 15h10 le Grand Prix de France, que vous suivrez en direct en intégralité sur RMC. On continue à dérouler la grille de ce Grand Prix, on en arrive à nos Français.
RMC, Motors, le French's Corner.
Et le premier d'entre eux, n'est pas français. Mais il est représentant de l'écurie française. C'est Daniel Ricciardo, 8e sur la grille de départ. Daniel Ricciardo à bord de sa Renault, la première des Renault. Alors comment justement, on en parlait il y a quelques minutes au sujet de McLaren, comment évaluer, Adrien, Jean-Luc, cette performance de la Renault ? Est-ce que c'est bien de se retrouver 8e, c'est-à-dire d'avoir réussi à passer le cut de la Q3 ? Ou bien est-ce que compte tenu des 5e et 6e places des McLaren Renault, eh bien c'est une déception ?
Jean-Luc, tu veux y aller ou...
Allez, on y va. Écoute, c'est le principe là, vraiment, du verre, voilà, à moitié plein ou à moitié vide. Bah, c'est bien d'être dans le top 10, évidemment. Ça n'a pas toujours été le cas des Renault jusque-là, depuis le début de la saison. On le sait, il y a eu des problèmes techniques qu'on a honnêtement reconnus. On a parlé de ces histoires de Biel. On avait des problèmes de fiabilité, donc on réduisait un petit peu la puissance. Maintenant, ça y est, on a eu des évolutions moteurs qui sont arrivées. Donc, on le dit, on le répète, oui, le moteur Renault est bien placé. C'est pas le meilleur, mais il est bien placé maintenant. Maintenant, c'est le châssis qu'il faut travailler. On a d'excellents pilotes au volant. Hein. Je crois que l'arrivée de Daniel Ricciardo, considéré comme un pilote extrêmement rapide, notamment en course, a permis de se rendre compte que Nico Hülkenberg l'était lui aussi, extrêmement rapide, puisqu'il ne lui a pas rendu grand-chose. Maintenant, on vise clairement non seulement la reconduction de la 4e position au classement constructeur, mais surtout se rapprocher des 3 gros. Soyons honnêtes, on n'a pas la langue de bois, on n'y est pas encore hein, pour le moment. Il y a du boulot à faire du côté des châssis, de l'exploitation, Adri, et puis des pneumatiques. On est parfois un peu perdu. Alain Prost nous le confiait dans les GG du sport et il y a quelques minutes seulement.
Oui, effectivement, je crois que la question intrinsèque de Louis, est-ce qu'on peut être content d'avoir une Renault 8e, ça serait pas très ambitieux. Ambitieux de dire oui, tout simplement parce que Renault est un grand constructeur, a gagné des titres mondiaux en Formule 1 et effectivement on en veut plus. Par contre, quand on regarde l'image globale de l'année et des saisons précédentes, ben ça va dans la bonne direction, surtout au niveau du moteur, il faut bien le dire, et après d'un point de vue mécanique et de l'aérodynamisme, et ben il nous en manque un peu quand on voit la McLaren avec le même moteur qui est devant. C'est un milieu quand même très très compétitif, la Formule 1, où le moindre détail peut faire la différence, et arriver à tout comprendre, en tout cas à comprendre les détails d'une bonne performance ici, par exemple, au Paul Ricard, c'était très compliqué hier. Même Alain Prost, en tout cas, Alain n'avait pas les clés et les autres écuries non plus. Par exemple, les As qui se retrouvent derrière ne savent pas vraiment pourquoi. Donc oui. Voilà, je pense que tout le monde travaille fort et ça finira par payer. Ça va dans la bonne direction, en tout cas pour Renault.
On va y venir hein, assez as, parce qu'effectivement Romain Grosjean est sorti assez déboussolé des qualifs d'hier, ne comprenant pas pourquoi il devait faire face à de tels déboires. Mais d'abord, justement, Daniel Ricciardo, qui lui juge qu'il n'aurait pas pu faire mieux hier que cette 8e place.
Je suis plutôt content de ma performance parce que je ne pensais pas me qualifier mieux qu'à la 8e place. C'était tout simplement impossible de battre les McLaren aujourd'hui. Personnellement, je suis plutôt satisfait, mais c'est vrai que si on se place du côté de l'équipe, ce n'est pas une bonne performance d'être à 4 dixièmes, voire plus loin des McLaren. Peut-être que la piste leur convient bien.
L'Australien Daniel Ricciardo, 8e. Et derrière lui, un Français, celui qui a pris sa place finalement chez Red Bull, Pierre Gasly, 9e, mais 7 dixièmes moins vite hier en Q3 que son équipier Max Verstappen, qui lui est 4e. Comment on explique cet écart, Adri ?
Pardon, j'ai pas entendu le début de ta question.
Comment 7 dixièmes d'écart entre Gasly 9e et Verstappen 4e, comment tu expliques cet écart?
C'est compliqué de l'expliquer, tout simplement parce que ça fait beaucoup en Formule 1. Il y a toujours une explication. Maintenant, on n'est pas chez Red Bull et on sait que c'est une équipe où il y a beaucoup de politique aussi en interne. On sait que sur les premières courses, Pierre tout simplement n'avait pas toutes les évolutions, ou en tout cas la même voiture exactement que son coéquipier. Pour moi, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, parce qu'en plus de ça, Pierre est en pneumatique soft, il est avec les pneumatiques les plus performants en Q3, donc c'est quelque part décevant pour cette Red Bull de se retrouver seulement 9e ici en France. Espérons qu'il arrive à faire une bonne course, passer un peu entre les les gouttes lors du premier tour, les éventuels incidents, et puis remonter, aller marquer des gros points, mais trouver vraiment une explication, c'est compliqué pour moi. Je ne peux pas croire que ça soit seulement la performance du pilote qui soit remise en cause.
Juste un mot, Louis.
Vas-y, j'en ai bien sûr.
Il n'était qu'à 3-4 dixièmes, donc on s'en réjouissait d'ailleurs, on en parlait avec Lucas et Adrien en disant ça y est, la pierre, il a trouvé comment ça fonctionne. 3-4 dixièmes par rapport à une référence comme Verstappen, c'était tout à fait admissible, et on n'a pas compris en qualif. Bon, il s'est sûrement un peu raté quelque part, parce que c'est pas normal de retomber au niveau où il était en début de saison. Cet écart est trop important, pardon, et ne reflète pas la réalité.
Oui, et puis c'est sans doute aussi, Adrien, psychologiquement assez dur pour Pierre Gasly, parce que justement, on s'était dit ces dernières semaines qu'il parvenait à combler cet écart avec Max Verstappen, à se mettre dans son rythme. Et là, ces 7 dixièmes sont la preuve d'une reculade quand même.
Oui, ou en tout cas, s'il a les clés lui, s'il sait effectivement pourquoi il est aussi loin, à ce moment-là, il doit quand même être un peu plus serein. Mais c'est sûr que s'il a pas les réponses et s'il a l'impression d'avoir la même voiture et de faire le maximum et qu'il a fait son meilleur tour possible hier en qualification, ça doit être très très dur à gérer, parce que. D'un côté, s'il n'y a pas d'explication et si c'est juste Max Verstappen qui est plus rapide à ce point-là, c'est très très dur pour un pilote. Mais moi, je n'y crois pas. Et dans l'autre sens, s'il n'arrive pas, enfin en tout cas s'il n'est pas au courant des raisons pour lesquelles il est aussi loin, il doit se poser 36 000 questions dans sa tête. Et quand on sait que le sport automobile et la Formule 1 est un sport mental avant tout, et ben c'est un vrai challenge qu'il est en train de vivre. En plus de ça, dans une écurie comme Red Bull, où on sait que les choses changent très très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, j'espère qu'il arrive à faire abstraction un peu du monde extérieur et se créer une bulle pour vraiment se focaliser sur sa performance sportive.
Je rappelle, messieurs, que vous serez rejoints dans quelques instants par Yannick Dalmas, l'ancien pilote, qui sera notre nouvel invité dans Motors à vos côtés sur le circuit du Castellet. Il reste un Français à évoquer pour nous, c'est Romain Grosjean. D'abord, on va l'écouter. Romain Grosjean, 16e sur la grille tout à l'heure, et qui encore vit un week-end très, 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 je pourrais continuer, compliqué.
Faut qu'on comprenne, on a beaucoup blâmé les pneus sur le début de saison. Il fait 58 degrés au sol et c'est le Paul Ricard, énormément de virages rapides, on n'arrive pas à aller plus vite. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille, qu'on essaie de comprendre, qu'on analyse, parce que là on a un petit peu raté la course au développement et je pense qu'on est tombé derrière.
La seule consolation pour Romain Grosjean, c'est de voir que son équipier n'est pas loin, hein. Kevin Magnussen en 15e place. Mais c'est vraiment, il faut chercher pour trouver un motif de satisfaction, Jean-Luc.
Ah bah absolument, oui, là, c'est clair que la situation est très délicate. Romain, il est intervenu également tout à l'heure. Alors, il essayait de positiver, comme il le fait souvent. Il avait quand même le sourire. Il s'est dit, bon, on relativise, je fais un métier formidable, je vis ma passion, je suis pilote de Formule 1. Ok, on a des petits problèmes, mais je crois que là, ça tombe évidemment au plus mauvais moment pour lui. Et malheureusement, on a l'impression de revivre, tu t'en souviens,
ben voilà,
moi, le début de saison 2018, un peu moins catastrophique. Il a déjà 2 points au compteur, mais c'est rien du tout par rapport à son équipier Magnussen, systématiquement plus rapide que lui en qualif et en course. Donc là, c'est vrai que Romain, on a l'impression qu'en ce moment, il passe un baccalauréat, tu sais, à chacun des Grands Prix.
Ouais.
Et celui devant son public, ici sur le circuit Paul Ricard, est peut-être encore plus important que les autres, c'est clair.
Adrien, sur ces contre-performances qui s'enchaînent pour Romain.
Bah, je crois qu'on a vu Romain tout à l'heure dans les GG assez souriant, assez quand même décontracté et en tout cas avec du recul sur la situation dans laquelle il est. Il a vécu l'année dernière un Grand Prix de France et une qualif très très compliquée. On l'a tous vu d'ailleurs. Et là, il est dans une situation un peu différente parce que il a quand même une excuse qui est quand même valable. C'est le fait de ne pas bénéficier de la même voiture que Kevin Magnussen, et quand on sait que les choses se jouent sur des détails, ici on peut avoir une monoplace qui est juste un peu déséquilibrée et on va vite perdre 3-4 dixièmes au tour. Et ben voilà, on a demandé tout à l'heure à Romain si c'était quantifiable et il m'a dit 3-4 dixièmes, et c'est ce qui le séparait à un moment donné de Kevin Magnussen. Et puis n'oublions pas aussi qu'à un moment donné dans la séance de Q1, il était 7e. Après, ça s'est joué à rien, peut-être pas d'amélioration sur le deuxième tour, bref. il faut continuer. C'est pas le premier faux pas de sa carrière. C'est pas la première contre-performance. Ça sera pas la dernière non plus. Et je crois qu'il y en a vu d'autres. Donc, espérons que juste que ça s'améliore et que cette AS arrive à suivre le tempo, surtout des McLaren et des Renault au niveau du développement en cours de saison.
Et c'est une évolution qui concernait les suspensions arrière, en l'occurrence, la voiture de Romain Grosjean, évolution dont a bénéficié son équipier chez AS, Kevin Magnussen. Tiens, Jean-Luc, je vois des drapeaux français agités dans les tribunes du Castellet. La parade des pilotes vient de débuter.
Oui, la parade vient de débuter et c'est une belle tradition. Au lieu de les mettre dans des camions un petit peu anonymes et un petit peu horribles, il faut bien le dire, là on les a mis dans des cabriolets, magnifiques cabriolets, en rapport d'ailleurs avec la motorisation souvent ou la marque utilisée par les pilotes. Donc on a vu de très belles Ford Mustang, on a même vu des Jaguar Type,
ah,
on a vu des Austin Hilaire, c'est fabuleux, écoute. Et d'ailleurs, ce qui est très sympa, tu sais, c'est que ces voitures, naturellement, appartiennent à des particuliers qui les mettent à disposition, trop heureux, évidemment, de faire un tour du circuit avec un pilote de Formule 1. Et on voit dans chacune de ces voitures les pilotes échanger très sympathiquement pendant ce tour de circuit à vitesse réduite, bien sûr, avec le propriétaire. Et ça doit être un moment unique, évidemment, dont ces personnes-là vont se rappeler toute leur vie, je pense.
Bien sûr, c'est pour ça qu'ils vont pas très vite, parce que si tu fais ça et que tu fais que 1,28, t'as pas savouré. Il y a que Lewis Hamilton qui prend son pied en 1,28.
Adrien, il y a une image assez marrante d'ailleurs, Romain Grosjean qui a pris une espèce de machine pour qui projette carrément des casquettes dans le public,
et
des cadeaux,
on appelait ça
des cadeaux pour les spectateurs et pour les fans de Formule 1. C'était assez sympa comme image.
Absolument, voilà. Romain Grosjean qui distribue des cadeaux. Oui, Jean-Luc.
Oui, on voit que le public est arrivé, hein. Ça nous fait plaisir, franchement, parce qu'on était hier, il faut le dire aussi, un petit peu inquiet. On voyait ces tribunes assez désertes, assez peu occupées par les spectateurs. On le rappelle, c'est dû évidemment aux embouteillages inextricables de l'an dernier. Mais bon, je sais que c'est trop tard maintenant, mais on l'a dit sur l'antenne de RMC depuis 3 jours. Il fallait venir, il faut assister à ce Grand Prix. Et là, on a l'impression que les spectateurs sont arrivés, même si, soyons honnêtes, ils sont moins nombreux qu'ils l'étaient l'an dernier à la même époque, évidemment.
Adrien, une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est la stratégie pneumatique. Plutôt un arrêt, c'est ça l'option privilégiée ?
Oui, a priori sur ce circuit, malgré les températures très élevées, une dégradation qui sera quand même difficile à gérer, on est parti sur des pneumatiques ici dans le panel un cran plus dur qu'à Montréal dans le choix de Pirelli, et apparemment ces pneus vont être capables de durer, en tout cas pour ceux qui partent avec les pneumatiques medium ou hard. Pour ceux qui partent en pneumatiques soft, ça sera peut-être un peu plus difficile à gérer. On sait que ces pneumatiques là surchauffent assez rapidement dans les premiers tours. Je pense que ça va être pour eux, la question va être dictée, en tout cas le rythme va être dicté par ceux qui partent devant eux en pneumatique médium, et si ça part trop vite, ça sera compliqué pour eux de faire qu'un seul arrêt pour les pneumatiques soft.
Le départ de ce Grand Prix de France, c'est à 15h10, évidemment, à suivre en direct en intégralité sur RMC autour de Christophe Cessieux qui est avec vous au Castellet. On continue de parler Formule 1 dans un instant, et dans Radio Paddock 13h42, Motors revient tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h44 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez, Motors en direct jusqu'à 14h avec Adrien Tambay et Jean Lecroix en direct du circuit du Castellet. À 14h, vous retrouverez Christophe Cessieux pour l'intégral sport. Au menu évidemment le Grand Prix de France dont le départ sera donné à 15h10, mais également l'événement de la soirée, c'est bien sûr ce 8e de finale de Coupe du Monde féminine qui opposera au Havre la France au Brésil, coup d'envoi 21h. Mais d'abord, Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Louis, salut les amis, salut à tous.
Salut Benoît.
Je ne pas. On a eu Alain Prost dans les paris et je ne
m'en
pas.
Ah,
non, alors là, l'expertise d'Alain Prost. Ah, franchement, c'était exceptionnel. Bon, un peu gêné quand on a parlé de Renault.
Ah,
mais bon, on ne l'a pas trop embêté.
Oui, c'est ça, vous avez été sympa. Voilà. De la Formule 1, justement, aujourd'hui, dans Radio Paddock, spécial jusqu'au bout. Avec d'abord des infos, c'est un sujet qui intéresse au plus haut point Jean-Luc, parce évidemment que c'est très important. Ça concerne les règlements techniques.
Les nouveaux règlements qui devront intervenir sur la Formule 1 à partir de 2021. On s'attendait à une décision avec une charte qui devait tomber au mois de juin. Finalement, la décision est repoussée au mois d'octobre. Il y a eu pas mal de pression de différentes écuries. La décision a été prise en fait jeudi à Paris. Il y a eu une réunion en présence notamment de Lewis Hamilton qui était représentant des pilotes. Jean-Luc, on veut prendre son temps parce qu'il y aura pas mal de restrictions, notamment au niveau des coûts. On va développer l'hybride. On veut relancer le suspense du côté de la FIA. Et pour faire accepter tout ça, on prend son temps pour avoir un règlement un petit peu plus égal, entre guillemets.
Ah oui, écoute, c'est très compliqué. Tu sais qu'il y a plusieurs parties qui interviennent. Pour ce qui concerne les règlements sportifs et techniques, c'est la FIA, clairement. On avait Jean Todt tout à l'heure dans les GG du sport. On n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet, naturellement. Mais c'est un sujet épineux, c'est un sujet important. Alors que, si vous le voulez bien, Yannick Dalmas nous rejoint.
Bien sûr.
Donc on va interrompre, voilà, ce Radio Paddock.
Parce c'est que du direct, Yannick, on adore ça.
Voilà, nous fait le plaisir, l'amitié d'être avec nous. Salut.
Bonjour
Yannick.
Jean-Luc. Salut. Bonjour. Yannick.
Merci beaucoup. Alors écoute, je te garde 5 minutes. Nous te gardons 5 minutes. Première question, tu es ici dans un rôle très important, un rôle de commissaire sportif. Donc tu seras à la direction de course, en charge peut-être de juger le comportement des pilotes.
Oui, c'est aujourd'hui, en fait, ce week-end, c'est la même fonction que j'avais eue l'année dernière pour le premier Grand Prix de France. Excusez-moi, je me
prie. Ah oui, je t'en prie, je sais que tu viens de courir.
Tu me fais 1600 mètres.
Il vient de faire un sprint, là, Yannick.
C'est pas grave.
Et pourtant, c'est un sportif. Ouais. Vas-y, vas-y.
Et donc, voilà, c'est la même fonction. Donc,
oui.
Bah, les faits de course, nous sommes là pour en juger. Donc, on a un gros matériel, si vous voulez, informatique,
oui.
Télémétrie. Des caméras inboard, pardon,
oui. Possibilité donc de revoir
toujours
une action,
oui,
sous plusieurs axes pour...
Exactement.
Est-ce que vous avez un délai pour éventuellement appliquer cette pénalité, ou comment ça se passe?
Jean-Luc, vous savez, on n'est pas en endurance, oui. Donc la course, le problème, c'est qu'il faut aller très vite.
Bien sûr.
Donc c'est pour ça qu'on a une personne qui est derrière les commandes, justement pour recueillir toutes ces informations et au plus vite avec les autres stewards. Et puis il faut que l'on aille vite, quoi.
Oui,
parce que si c'est à la fin de la course,
on a vu. Alors, est-ce que la vie du pilote compte autant que celui des autres, ou on sait qu'il y a trois autres commissaires sportifs? Est-ce que le poids est le même pour chacun des quatre intervenants?
Alors, si vous voulez, en tant que pilote, vous amenez votre expertise, puisque vous connaissez le pilotage d'une Formule 1, d'un proto, de toutes ces choses-là. Donc voilà, on peut emmener un plus. Mais de toute façon, les décisions sont collégiales, toujours.
D'accord.
Voilà, et c'est, comment dirais-je, je pense qu'il faut bien expliquer les choses, si vous voulez, entre nous, les stewards, pour que lorsqu'il y a un jugement, eh bien, ça soit le plus juste possible. Voilà. C'est les choses sur lesquelles je m'attache beaucoup, et de parler avec les pilotes. En endurance, la différence par rapport à la Formule 1, c'est que pendant la course, on peut recevoir les pilotes,
bien sûr,
lorsqu'ils terminent leur relais, les écouter, et puis après débattre et voir. Là, malheureusement, en Formule 1, il n'y a pas ça. C'est direct. Donc, bien sûr, nous sommes aussi en communication avec le directeur de course, puisque la room des stewards, si vous voulez, est séparée de la direction
D'accord.
de course. Donc, nous sommes isolés, nous sommes dans une pièce avec toutes les informations.
Comme un jury.
Comme un jury, oui. Identique au directeur de course, si ce n'est que à aucun moment on intervient.
Bien sûr.
Pendant la course, si ce n'est pas le maximum de communication et de feedback de la part du directeur de course et de nous.
Yannick, sans te mettre bien sûr en mauvaise position, ton avis sur la manière dont était statuée justement la sortie de piste de Vettel? Je te demande pas de prendre une position, mais est-ce que tu comprends la décision qui a été prise par les commissaires lors du Grand Prix du Canada d'appliquer ces 5 secondes? On se rappelle de la polémique, et d'ailleurs Ferrari est revenu avec Laurent Mekies, l'un des représentants de Ferrari ici, pour essayer de faire reprendre ce jugement. Ça n'a pas été admis, la requête a été repoussée. Est-ce que tu comprends? Je te dis, c'est pas pour te mettre surtout mal à l'aise. Et toi, en tant que pilote, est-ce que tu comprends aussi la frustration de Vettel, bien sûr?
Mais si vous voulez, vous êtes dans la course. Que l'on a pu assister durant le Grand Prix du Canada, c'est que de la première minute à la dernière minute, il y a une bagarre fabuleuse avec Vettel et Hamilton.
Ah, c'était génial. Le bras de fer entre les deux prétendants au titre, on va dire ça comme ça.
Vettel, à un moment donné, il se loupe. Il va tout droit, il récupère la voiture. Et je me demande comment il a regagné la piste. Et puis voilà. Après, le reste, vous savez, c'est...
Question d'appréciation.
Ouais, question d'appréciation. Je n'y étais pas. Ce que j'ai pu voir, ouais, et j'ai encore vu les images, ce fut par les réseaux sociaux.
Ouais.
Après, bien sûr, avec nos informations que nous avons aujourd'hui, avec la FIA, Mais voilà.
Je crois que c'était ni blanc ni noir et la décision était de toute façon très très difficile à prendre. Un immense respect pour les gens qui ont pris cette décision et pour Emmanuel Epiro aussi. Il faut le dire parce que il a subi pas mal de mots difficiles après ça. Et quand on connaît le bonhomme et quand on sait en plus qu'il est italien, que c'était une décision contre la Ferrari, à un moment donné, il faut être un peu pragmatique. Et là, honnêtement, pour moi, on aurait pu ne pas prendre de décision contre Vettel, mais on aurait pu aussi prendre une décision contre Vettel. Donc voilà, il y a un arbitre.
Tout à fait.
Il y a une décision prise.
Il faut respecter les décisions de l'arbitre, voilà. Comme l'on dit.
Connaissant, si vous voulez, Emmanuel Pirot, puisque nous travaillons aussi dans la commission des pilotes, il y a l'intégrité de la part de ce pilote et de cet homme. Donc voilà, c'est vrai que ça a été difficile et il a reçu plein de choses négatives à son retour au Canada.
Mais c'est l'époque qui veut ça.
Avec toutes les communications qu'on peut avoir aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Mais je pense que lorsqu'on accepte ce rôle, eh bien, il faut aussi en subir les conséquences. C'est pas un cadeau que l'on nous fait. C'est eu égard, par exemple, à notre expérience, à notre intégrité. Parce que ça, c'est, je pense, que les personnes qui nous chapeautent, qui décident
de regarder bien cette chose-là. C'est pour ça que vous êtes choisi de cette manière-là. Ouais. Et on rappelle tes multiples victoires au Mans, tes 4 victoires au Mans, pilote de Formule 1 ici, où tu t'étais illustré.
Mon dernier Grand Prix ici.
Oui, je vais te laisser filer, Yannick, parce que l'heure du Grand Prix approche. Ouais. Merci infiniment.
Merci beaucoup, Yannick.
Bon Grand Prix, monsieur.
Merci.
Et immense respect.
Voilà.
Et immense merci à Yannick Dalmas, parce que c'est effectivement très rare d'avoir un homme de cette importance-là pour la course, si peu de temps avant le départ d'un Grand Prix. Radio Paddock reprend quand même son cours. On était sur les affaires de règlement. On a terminé là-dessus ou on passe au budget?
Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura une vraie décision qui sera bien actée en octobre. C'est ça la date à attendre, Jean-Luc.
C'est ça. Là, je crois qu'on n'ira pas plus loin, parce que la mise en pratique, évidemment, du règlement, c'est quand même 2021.
Il faut s'adapter pour les écuries, bien sûr.
Et voilà, il y avait même un débat, pour la faire très courte, entre les écuries puissantes qui, évidemment, mettant des centaines ou des milliers de gens, auraient les moyens, évidemment, de fabriquer les voitures très vite, et des écuries moins puissantes qui, elles, rameraient pour sortir les voitures à temps. Enfin bon, voilà. Là, en tout cas, ça c'est réglé, c'est donc capé, on va en parler, et la date est prévue, maintenant on n'ira pas au-delà d'octobre.
Autre info à retenir, il y aura une limitation de budget désormais en Formule 1, et ça c'est important.
Oui. Tu pourras plus faire ce que tu veux, Jean-Luc.
Voilà. 175, voilà.
C'est dur.
Voilà, plus de notes de frais houleuses. Voilà, Jean-Luc, c'est terminé. On te coupe les livres.
C'est dramatique.
Voilà, un budget limité à 175 millions de dollars. Si tu pourras plus rien faire avec 175 millions de dollars.
Ça permet de prendre des vacances agréables quand même. Alors,
ce que j'aime bien, si on convertit, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 154 millions d'euros. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, pour se mettre d'accord avec les grosses écuries, avec les lobbies, nos amis directeurs de la FIA ont quand même décidé de retirer de ce budget de 175 millions les salaires des pilotes, les salaires des trois managers les mieux payés des teams, les dépenses en marketing, et les frais de déplacement. Ça fait pas mal de choses enlevées pour ce budget.
C'est exact. De toute façon, quand on sait que les meilleurs pilotes du plateau, les chiffres sont communiqués, touchent 35 millions de dollars par an, il est évident que si on en a deux de ce calibre-là, on voit où on part. Alors, ils ne sont que trois équipes capables de payer à ce niveau-là. C'est Mercedes, bien sûr, c'est Ferrari et c'est peut-être Red Bull et encore peut-être un peu moins Red Bull. Bon, c'était logique d'exclure effectivement les salaires des pilotes. Maintenant, pour le reste, on exclut même les motorhomes, alors qu'on voit ici, là, dans le paddock sur le circuit Paul Ricard, des constructions absolument monstrueuses et j'ose le dire débile, quoi. On en arrive à un point où là on transporte des tonnes et des tonnes de matériel pour faire des hospitalités. Non mais c'est démentiel, franchement. La Formule 1 pourrait économiser de l'argent sur tout un tas de points particuliers. Alors oui, ce règlement, il est difficile à élaborer, nous l'avons dit. On l'a évoqué avec Alain Prost encore une fois tout à l'heure, qui représente l'équipe Renault, parce que c'est finalement essayer de trouver un moyen terme et de faire rejoindre des gens qui sont à l'opposé complet entre Williams, par exemple, qui lutte pour sa survie, et Mercedes, qui dispose de budget quasiment illimité.
Voilà. Et oui, parce qu'on, pour vous donner un ordre d'idée, donc ce serait un budget limité à 175 millions de dollars. Une écurie comme Mercedes ou Ferrari, ces deux top teams dépensent environ 300 millions de dollars sur une saison. Donc c'est quand même.
Mais c'est vrai que c'est dans la bonne direction. Ça va quand même dans la bonne direction. On peut pas descendre de 300 millions à à 40 millions en une année. Et je pense que quand même, ça se traduit, cet argent-là, parce que c'est de l'argent qui est utilisé dans la plus grande partie pour le développement des voitures. C'est pour ça qu'on a séparé le reste. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de diminuer l'écart qu'il y a de performance entre les voitures. Et bien sûr, si on a 150 millions de plus, par exemple, chez Ferrari que chez Renault, et ben ça fait des dixièmes au tour sur une saison. Donc ça va dans la bonne direction quand même.
Et puis, si vous me permettez, on peut rajouter les heures et les heures et les heures. Là, c'est des dizaines de milliers d'heures d'ingénieurs dans les grandes équipes. Et Mercedes a parfaitement anticipé le règlement 2014. Donc, on a compris pourquoi l'enjeu de ce règlement 2021 était aussi important. Est-ce qu'on aura une nouvelle ère? On a eu l'ère Red Bull avec le règlement précédent. Mmh. On a l'ère Mercedes qui va certainement se terminer. Et Mercedes le sait. Pour qui sera la prochaine ère qui pourrait courir de 2021 à 2030? Vous voyez que l'enjeu, il est absolument capital pour la saison. Formule.
Et on rappelle qu'il y a des pénalités prévues. Du coup, s'il y a des dépassements de budget, ça peut aller de la perte de points à une disqualification carrément du championnat. Et même une perte de licence FIA. Mais après, là, je pense qu'il y aura, on n'ira pas jusque-là. Ce sont les cas extrêmes. C'est ce que les textes prévoient. Mais de là avoir Ferrari exclu de la Formule 1, on n'y est pas encore.
Non, et d'autant qu'on n'a que 10 équipes de Formule 1, et vous le savez, il y a une clause très précise qui implique qu'il y ait toujours 20 voitures au départ et 10 écuries, c'est le minimum même, on pourrait en avoir plus, on pourrait remonter à 22, 24 ou même 26, comme j'allais dire dans les années 70, 80, et là, il faut absolument qu'on ait ces 10 équipes, et donc je pense que cette menace, évidemment, elle plane, mais elle ne sera jamais appliquée.
Parfait, merci Benoît. Pour Radio Paddock.
Merci à vous.
Merci à vous, les amis.
Adrie, salut Benoît.
Jean-Luc, on vous retrouve dans un instant dans l'Intégral Sport avec Christophe Cessieux. Et puis juste après, 15h10, le départ du Grand Prix de France. Vous le commenterez évidemment avec Lucas, comme d'habitude. Moi, je vous retrouve à 16h pour l'Intégral Sport. On débriefera ce Grand Prix. Vous aurez toutes les premières réactions directes et tranquillement, on montera en puissance jusqu'à l'autre grand événement de la journée. Un France-Brésil en Coupe du Monde en France. Voilà qui rappelle des souvenirs à tout le monde. 8e de finale de la Coupe du Monde féminine ce soir à 20h. Une heure, énorme journée de sport sur RMC. Elle continue tout de suite avec Christophe Cessieux.